me réveille, je dormais dans un piano.
Non.
Allez hop.
Les médias francophones publics présentent.
Bon, vas-y, 1, 2, 3, 4.
I love le grand.
Une série musicale en 9 mouvements.
8 mesures, hein, tu fais tout seul.
Composée par Leïla Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Bouillot. I love le grand.
Michel, s'il te plaît.
Mi, si, si, sol, ré, si. 1, 2, 3, 4.
Je vais prendre ma bouteille d'eau et je vais parler dans le micro de France Inter.
Pu, pu, pédu, 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 pédu.
Préparez-la, préparez votre pâte. Dans une jatte, dans une jatte plate.
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends.
Ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
Une œuvre de vous restera et s'installera dans le 21e siècle. Bon, le cinéma est en place, hein.
Oui.
Bon. On ne sait pas ce que deviendront ces films, ou Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Mais il y a peut-être une chanson, une musique, parce que vous avez également composé pour de grands orchestres. Vous avez Concerto, Quatuor. Alors laquelle pourrait rester?
Ça m'est égal. Alors ça, je vais vous dire quelque chose de vraiment profondément sincère, qui vient du fond de moi. Je m'en tamponne. La postérité, je m'en tamponne.
Se moquer de la postérité. Allons, Michel, vous êtes vraiment sûr? J'ai comme un doute. En tout cas, vous laissez derrière vous une œuvre colossale, hors norme. Jacques Chancel a raison, vous vous êtes essayé à tout et avec brio. Inclassable Michel qui jamais ne s'arrête de créer. Sur la planète Legrand, balayer les frontières, la musique se décline au pluriel, tout en restant si singulière. Michel Legrand, le bien nommé, connu dans le monde entier, est un explorateur. Classique, jazz, rock, variété, comédie musicale, rien ne fait peur à cet homme orchestre, et surtout parce que les autres vont penser de lui. Il brouille sans cesse les cartes, passe d'un registre à un autre. Michel Legrand, les grands écarts esthétiques, ça le connaît. Ce qui compte, c'est de rester en mouvement, de ne pas regarder derrière et de faire. Michel, plongez dans votre vie, rencontrez vos proches, écoutez des heures votre voix parler, chanter. Ce fut un bonheur. Cette traversée, il était prévu qu'on la fasse ensemble. Vous étiez d'accord pour vous raconter. Vous êtes parti avant. Me voilà seule au pupitre et la partition est de taille parce que votre musique nous a tous un jour touchés. Michel Legrand, vous êtes entré dans mon cœur un soir de décembre, j'avais 8 ans, c'était les vacances. J'ai vu Catherine Deneuve en robe couleur de soleil, une fée qui jaillissait du plafond, des surimpressions de couleurs et des mélodies qui rendent heureux. Une mélodie surtout, la recette du cake d'amour qui m'accompagne toujours 30 ans plus tard. Vous aussi, derrière votre poste, vous allez chanter, fredonner, aimer, battre le rythme en cadence. Écoutez les battements de votre cœur.
And the winner is Michel Legrand and Alan Marilyn Berger for the Windmills of Your Mind.
On l'appelle le dauphin.
La première musique que j'ai entendue de Michel Legrand, c'est le générique d'Oum le Dauphin.
Alex Baupin.
Et je me souviens d'avoir été profondément marqué par la chanson parce qu'il y avait dedans tout ce que j'ai retrouvé après chez Michel Legrand, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très entraînant, très léger sur les paroles et la musique, et à la fois derrière, il y avait souterrainement une espèce de chose un peu mélancolique.
On se cachait dans les coins.
Là, j'en retiens une. Bon, alors, voilà.
Jean-Paul Rapneau.
C'est avec Michel que je l'ai découvert, que le cinéma est un art musical.
Tout de suite, on sait.
Pourquoi, Nathalie?
La marque des grands génies, c'est précisément qu'il y a une mesure, quelques notes, et on sait qui c'est.
C'est comme un...
Juliette Armanet.
Un souffle, on souffle. On expire, on respire. On s'écroule. On espère et puis on désespère. Et puis on réespère.
Il y a...
Didier Varro.
À la fois tout ce romantisme, cette rigueur aussi. Et cet esprit pop. Le grand est devenu bizarrement pop.
1, 2, 3.
Moi, je me considère que je suis un chanteur pop. La pop, c'est chanter légèrement des choses graves. Je trouve que c'est la définition même, la musique de Michel Legrand, de la musique pop.
Le truc de Michel, c'est qu'il était champion partout.
Macha Merrill.
Il était champion dans le jazz, il était champion. Pour moi, en musique classique, c'est bouleversant, ces concertos. Les chansons n'en parlaient pas. Alors, il considérait qu'une chanson réussie, une grande chanson, ça vaut un opéra.
C'est ce mouvement, ce moulin qui tourne, eh bien, il s'arrêtera jamais de tourner. Jamais.
Qu'est-ce qu'il fait?
Ça joue tout seul.
Alors, si maintenant, au moment, si je disparais ce soir, faut pas me souhaiter ça quand même.
On ne souhaite pas.
N'est-ce pas?
Oui.
Bon. Eh bien là, si à mes obsèques, vous jouez de la musique à moi, je ne viendrai pas.
Ça, c'est... I Love Le Grand. Premier mouvement.
La musique en héritage.
Avec, par ordre d'apparition,
Nathalie Dessay, chanteuse. Jean-Paul Rapneau, cinéaste. Bertrand Dical, journaliste. Stéphane Le Rouge, biographe. Jean-Michel Defaille, ami d'enfance et arrangeur. Son frère, Benjamin Legrand. Son fils, Benjamin Legrand. Laurent Delmas, journaliste.
Et le grand Michel.
Je m'ennuyais infiniment étant enfant, j'étais tout seul chez moi. Et dès l'âge de 3 ans, 4 ans, il y avait un vieux piano désaccordé qui traînait et je n'étais qu'avec lui. Je le mangeais, je le suçais, je passais mon temps dans le piano et nulle part ailleurs.
Et ce vieux piano, c'était celui de son père, le chef d'orchestre Raymond Legrand, qui a abandonné femme et enfant quelques temps après la naissance de Michel, le 24 février 1932. À défaut d'amour, on peut dire que Michel a reçu la musique en héritage. De son enfance, il ne dira que peu de choses, simplement qu'elle était grise et teintée de solitude. Alors Michel s'accroche à la musique, aux chansons diffusées à la radio qu'il s'échine à reproduire sur son clavier. Dans le poste, le swing venu des Amériques déferle sur l'Hexagone avec Mireille et Charles Trenet. Le jazz est aussi du voyage. À Paris, Stéphane Grappelli au violon et Django Reinhardt à la guitare le font fusionner avec la musique manouche.
Avant 10 ans, je me suis ennuyé comme c'est pas permis. J'étais solitaire, je détestais le monde, je détestais les enfants, je détestais les adultes. J'avais qu'une seule chose qui éventuellement me plaisait, c'était d'écouter de la musique et d'en faire. Alors, il a fallu quand même que ma pauvre maman ait essayé de m'emmener à l'école quelquefois. C'était... Mais je me roulais par terre, je hurlais, je menaçais de sauter dans la cage d'escalier, enfin tout ça.
L'enfance a eu l'air, en fait, d'être très très dur pour lui. Dur au sens où il détestait être un enfant. Parce que, précisément, il était plus âgé que ça dans sa maturité intellectuelle, probablement. Il voyait bien qu'un enfant était à la merci des adultes, et que ça ne lui plaisait pas du tout. On n'a jamais pu lui commander de faire quoi que ce soit, mais pas plus à 3 ans, ou 5 ans, ou 7 ans, qu'à 45 ou 80. Et je me souviens notamment qu'il me parlait du peu d'école qu'il a faite, ça a été une torture pour lui. Un truc complètement incompréhensible. Il n'a même pas voulu y mettre ses enfants. Enfin, c'est très bizarre ce qui s'est passé là.
Ma mère, ma grand-mère, elles avaient chez elles un vieux piano droit qui était une jolie pourriture de Pleyel, qui a été mon compagnon, mon univers, mon seul d'ailleurs compagnon et univers, toute mon enfance.
Sur ma cheminée, j'ai vu ce matin trois petits lutins qui se promenaient les doigts dans le nez.
Mon plaisir étant môme, c'était, je grimpais sur le piano, je retrouvais les chansons que j'avais entendues à la radio. Alors tout à coup, puis je retrouvais les accords. Oh, quel bonheur. C'était, vous savez, c'était un petit peu comme un jeu de calque, quoi. J'écoutais un truc à la radio, toc, je fermais la radio et je fonçais au piano. Et je retrouvais la mélodie, là je cherchais sur les notes, cherchais les accords.
Les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou Maison Lafitte? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval, vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas un viral.
Dans les années 35-36, il y avait une espèce de jazz comme ça. Pas encore l'énorme jazz magnifique qui était le bebop quand il est arrivé après la guerre en 45-46. Mais il y avait déjà du jazz. Il y avait le Hot Club de France, il y avait Stéphane Grappelli au violon, il y avait aussi Django Reinhardt. Il y avait... Et alors je trouvais ça formidable, le rythme, c'est merveilleux. Et c'est comme ça que la musique rythmique est arrivée à moi. Voilà.
Vite, 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 à la cave, tout le monde.
La bon vent, la jolie vent.
Nous sommes les enfants de la guerre, quoi. La grande histoire de notre enfance et de notre préadolescence, c'est la guerre, quoi. Si je pense à ces années, je me dis tout de suite, mais ça c'était alors, c'était avant Stalingrad. Ça vient très vite. Donc pour lui, il y a une date, mais il y a une musique.
C'est à l'orée de la Seconde Guerre mondiale que Michel grandit. La France de 1932, où il voit le jour, est confrontée aux premiers effets de la crise économique mondiale qu'il avait jusque-là épargnée. L'Allemagne voisine s'enfonce un peu plus dans la Grande Dépression. L'extrême droite et Adolf Hitler sont aux portes du pouvoir. Un an après le début de la guerre, Radio Paris est devenu un outil de propagande allemande. Michel a 8 ans et dans le poste, il entend souvent la nouvelle star française adoubée par l'occupant, Raymond Legrand et son orchestre.
Pendant l'occupation, j'ai de 8 à 12. Donc je me souviens très très bien de l'occupation allemande, mais très très en détail. Je dois dire, pour moi, plus une aventure qu'un drame.
Il faut quitter les grands axes. C'est trop risqué.
D'abord, en 1940, on avait été comme tous les Français avec nos matelas sur le dos, sur les routes, vers l'ouest, dans la Mayenne. Et alors on est resté, c'était une petite ferme comme ça. Et moi j'étais gardien de vaches.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Ma mère, eh bien, elle était avec nous comme ça quelque temps, puis ensuite de ça elle est rentrée à Paris.
Pourquoi papa nous a laissés ? On s'entendait plus. C'est pas une raison, c'est un salaud ! Ne dis jamais ça de ton père.
Mon père, je sais pas, il était pas là, lui. Il était parti de la maison quand moi j'avais 3 ou 4 ans auparavant, avant la guerre. Pendant les 4 ans d'occupation, je l'ai vu 2 fois. C'était une grande star, Raymond, pendant l'occupation. On entendait à la radio tout le temps, tout le temps.
Dans cette époque où on écoutait la radio, quoi, la télévision évidemment n'existait pas, on écoutait des chansons et tout, et c'était toujours ça, plus ou moins. Et la musique du grand orchestre de Raymond Legrand.
C'est Raymond Legrand et son orchestre, la furie du jazz, que les auditeurs de Radio Paris reconnaîtraient entre 100 autres jazz, qui occupent la scène depuis déjà plusieurs minutes.
Là, elle interprétait. Et voilà, qui est accompagné par le grand orchestre. Voilà. Celui qui occupe le territoire, c'est Raymond.
C'était un chef de musique qui doucement mourait d'amour pour une jeune fille magnifique qu'il trouvait belle comme le jour. À la tête de sa fanfare, certains soirs du mois de mai, il fut un concert bizarre, espérant qu'elle comprendrait.
Notre père, c'était une star à l'époque. Il n'y avait qu'une station de radio, quoi. Donc, tout le monde écoutait le grand orchestre de Raymond Legrand. C'était du jazz, en plus, big band. Les gens adoraient ça, quoi.
Tu m'as dit oui.
C'est vrai que son père est à la fois un très grand musicien et un double salaud, un salaud du point de vue historique, puisque Il a fait de la musique sous l'occupation, et avec ces gens-là, et de cette manière-là. Et puis, c'était un salaud domestique. Il a plaqué sa femme, il s'est très mal conduit, et puis il a attendu que son fils soit bien élevé, et un certain nombre de prix de conservatoire, pour enfin lui tendre la main.
J'étais partagé entre deux émotions. La première, c'était que la gloire de mon père ne rejaillisse pas jusqu'à moi, jusqu'à nous. Ça, je trouvais ça dommage, parce que la gloire s'accompagne d'argent et de bien-être, et ça, on en manquait vachement. Alors, les gens disaient, mais c'est ton père, alors je ne pouvais pas dire non. Mais on était embarrassés, quand même, parce que moi, les deux fois où il m'a emmené, Christiane et moi, nous a emmené déjeuner, c'était au Cercle Arien. C'est-à-dire qu'il y avait des officiers allemands, on bouffait du foie gras. Nous, on écoutait à la maison la BBC tous les soirs, boum, 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 boum. Les Français parlent, et tout à coup, c'est-à-dire qu'on était à la fois dans les deux camps. Et ceci ne me paraissait pas possible. Alors j'avais un peu de, on ne peut pas dire de mépris, mais j'étais...
Il n'y avait pas beaucoup d'amour, quoi.
Non, on peut pas dire.
On peut pas dire.
Moi, quand j'aimerais, ce sera pour toujours. Tu vois, maman, l'amour pour moi, c'est comme la musique.
C'était l'été 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Puis un jour, tout simplement, tu t'es offerte. C'était l'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre, et moi dans tes bras, je criais, je t'aime. Dans mes bras, tu pleurais, je t'aime. On avait peur, on était heureux. C'était l'été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle. C'était l'été de mon premier amour.
Série des médias francophones publics par Leïla Kadour Boudadi.
J'avais une mère magnifique, hélas, qui n'est plus, et qui m'a fait travailler très très durement, qui m'a forcé à travailler le piano, le solfège, qui m'a forcé à entrer au conservatoire, qui m'a fait faire toutes ces choses magnifiques. Elle s'occupait d'une édition musicale.
Et pas de n'importe laquelle, l'édition de Reventura. Avec son orchestre, il mêle sur scène musique, sketch et fantaisie. Le pianiste-compositeur Paul Misraki et le guitariste Loulou Gasté seront de la partie. Tout va très bien, Madame la Marquise, c'est Ventura. Qu'est-ce qu'on attend ? Pour être heureux, c'est encore lui. Mais revenons à Marcel, la mère de Michel. Une femme de caractère à la voix grave qui interdisait à ses enfants de l'appeler maman. Bien plus tard, Michel choisira dans le seul film qu'il a réalisé, Annie Girardot, pour l'incarner. Un débit de mitraillette, l'air décidé pour cette mère qui avait des allures de petit général, obligé d'endosser le rôle du père absent.
Alors, c'est très curieux parce que sur son enfance, lui avait exactement ce point de vue-là, un peu de grisaille, d'enfermement, de solitude, et qu'il a vraiment trouvé sa voie au IE, au IX, en entrant au conservatoire. Et sa sœur, Christiane Legrand, avait un point de vue différent. Et Christiane lui disait, mais tu sais, tu exagères, on t'écoute, on a l'impression que notre enfance a été du Zola. Non, c'était pas du Zola du tout. C'était de la, disons, quelque part entre la classe moyenne, la petite bourgeoisie, et maman s'occupait très bien de nous, c'était pas aussi misérabiliste que tu veux bien le... Voilà. Et je pense que Christiane, donc, avait cette différence de point de vue, et puis elle avait la conscience aussi que Michel était peut-être l'enfant préféré de leur mère, Marcel, que Marcel avait très tôt eu conscience de la différence. Elle voyait qu'il y avait chez cet enfant un œil qui brillait. Et peut-être qu'elle voyait le destin de son fils, qu'il avait, par son intelligence, sa capacité à très vite tout comprendre et assimiler. Et que, voilà, il fallait très très vite le prendre en charge et lui donner une éducation, notamment musicale, à la hauteur des capacités qu'elle entrevoyait dans cet enfant. Et Christiane me disait toujours, et le revers de la médaille, c'est que ma mère a toujours été d'une indulgence totale avec mon frère. Tu sais, je crois que jusqu'à son dernier souffle, il manquera toujours à mon frère les fessées que maman ne lui a pas données lorsqu'il était enfant.
Quand j'avais 5-6 ans, comme ça, je m'amusais à écrire des petites piécettes, mais moches, quoi, pour les petites amies, les petites filles, comme ça. Et alors, ma maman, et je la comprends très très bien, on en reparlait beaucoup après, on crevait la dalle. Et alors, elle a pensé m'exhiber, c'est-à-dire, et dire comme ça, on va faire de l'argent, on va... Alors, elle m'a emmené voir un ami à elle qui était un pianiste, qui s'appelait Raoul Gola, qui était un homme qui jouait du jazz. Elle lui explique, et je l'entends, voilà, avec Michel, on va parcourir le monde, je voudrais que tu lui apprennes un peu quelques astuces pour faire du jazz, comme ça, les gens crient, joue-moi ça, il joue ça, enfin, le singe de foire, quoi. Et moi, j'étais content, parce que d'abord, un, plus d'école, deux, plus de travail, trois, plus... C'était la fête. Et cet homme, Raoul Gola, je l'entends encore, s'est mis dans une colère. Oui! Imbécile, il a traité ma mère. Mais tu n'as pas honte, mais il faut qu'il entre au conservatoire demain. Il faut qu'il fasse toutes ses classes. Non seulement il ne fera pas le singe, mais moi j'étais embêté parce que je me voyais déjà sur les tréteaux. Ça aurait été rigolo. Ouais, peut-être. Et alors ça ne s'est pas passé. Et donc, on s'est calmé. Je suis rentré au conservatoire en 42. Et puis quand je suis rentré au conservatoire, ma vie a vraiment commencé. Le premier jour où je vais au conservatoire rue de Madrid, j'entre et j'entends dans cet immeuble que de la musique. Des trompettes qui sortent d'une classe, les cors qui sortent d'une autre, la harpe qui est ici, les ensembles à cordes. Et tout à coup, je m'éveille et là je dis, oh, voilà ma planète. Et j'ai commencé à vivre ce jour-là. Et c'est formidable parce que j'avais donc la musique qui m'habillait, qui me faisait dormir, travailler, et ma vie change complètement.
Vous ne devez plus attendre rien qui trouble vos désirs. Vous ne devez plus attendre rien qui trouble vos désirs.
La radiodiffusion télévision française vous présente Hommage à Nadia Boulanger. En l'honneur de la grande musicienne.
Comment faut-il écouter ? Ben, il faut écouter. Pour écouter, il faut entendre. Pour entendre, il faut être pris par une émotion intérieure. Moi, je ne sais pas si vous pouvez l'analyser. Moi, je ne peux pas.
Nouvel acte de naissance pour Michel, sa rencontre avec Nadia Boulanger. Elle sera sa mère de musique et il n'aura de cesse de lui rendre hommage toute sa vie. Nadia Boulanger est bien plus qu'une pédagogue hors du commun. C'est un personnage de roman. Pianiste, organiste, Mademoiselle, comme on l'appelait, a été la première femme à diriger un orchestre à Londres et à Boston. Elle a formé les plus grands musiciens et compositeurs de notre époque, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Philip Glass. On se pressait du monde entier pour assister à son cours de contrepoint et d'analyse. Pour Stravinsky, Nadia Boulanger, c'est celle qui entend tout, qui a la capacité, littéralement, de révéler une œuvre à celui qui a la chance de bénéficier de son enseignement. Cette disciple de Ravel, sœur de la compositrice de génie Lili Boulanger, côtoyait Cocteau, Paul Valéry et Gershwin. Mais au fond, elle ne vivait que pour son art. Dormir, manger et aimer était une perte de temps. Nadia Boulanger, c'est l'école de la rigueur et de l'effort.
Nadia Boulanger a été mon maître, elle m'a tout appris. Chez Nadia Boulanger, on apprenait la poésie, la littérature, on apprenait la musique, bien sûr, on apprenait la peinture, les arts, on apprenait l'amitié, on apprenait les relations, on apprenait tout ce qui était de la musique et autour. C'est très rare, des gens qui ont cette culture totale, je veux dire. On apprenait la vie, quoi, finalement.
Oh, c'était une femme remarquable. Elle connaissait pratiquement toute la musique par cœur. C'était incroyable. Elle parlait 4 langues très bien. Elle pouvait préparer une conférence en français, anglais, italien, russe, en 1 heure de temps. Ah oui, elle avait un cerveau extraordinaire.
Alors, de vous penser courageusement. 1, 2, 1, 2.
Il y avait des exercices à faire avec elle. C'était une classe, c'était difficile. Il y avait du déchiffrage, de la transposition, de la lecture de partitions d'orchestre, des chants accompagnés ou des basses comme ça. C'était très difficile, oui.
Bon, alors, pardon, sans regarder la musique.
Elle commençait ses leçons à 7 heures du matin. Et ça durait comme ça jusqu'à l'heure du dîner.
Alors, voilà. Joue.
Elle devait se coucher vers minuit et elle lisait les dialogues de Platon pour s'endormir.
Joue-le dans son vrai mouvement. Continue.
Donc elle s'endormait vers 1h, 2h du matin, à 6h elle était debout. Elle déjeunait pas. Elle mangeait des petites pilules. Elle avait des petites pilules qu'elle mangeait vers midi, 1h, comme ça la soutenait jusqu'au soir.
Mais est-ce qu'il est tellement désespéré qu'il tient à se suicider, se noyer sous la pédale ? Noyons-nous.
Nadia Boulanger, elle savait tout. Des fois, je voulais l'étrangler, car elle était tellement exigeante que... Quand on a 13 ans ou 14 ans ou 15 ans, on a envie d'aller jouer à la balle au tennis avec des copains. Mais non, avec elle, il faut travailler, il faut apprendre toujours. Elle m'a dit, tu sais mon petit, quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de sauter une nuit par semaine pour travailler un peu plus. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé de passer 2 nuits par semaine pour travailler plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle me disait ça à la classe, j'ai beaucoup de migraines et qui me font très mal. C'est ça qu'on apprend. On apprend la rigueur, on apprend l'effort, on apprend à savoir qu'est-ce que c'est que l'effort. L'effort, c'est la concentration à son maximum, je veux dire. On est tous là à dire, oui, liberté, liberté, foutez-nous la paix, on veut être la liberté. Mais la liberté n'existe que dans la contrainte.
Il y avait une petite anecdote un jour, comme ça, elle avait sorti une cantate de Bach, et on s'est mis à chanter.
Tout le monde chantait normalement, et moi et Michel, on chantait elle a très bien entendu, mais elle a rien dit du tout. Parce que faut vous dire qu'elle était d'origine russe. Alors, elle était à la fois très sévère, mais à la fois très fantaisiste, comme sont les Russes. Alors, elle disait rien, ça l'amusait, elle faisait semblant de pas entendre.
Ah oui, vous étiez deux garnements avec Michel Legrand.
Voilà, on était très insupportables tous les deux.
Moi, j'avais d'autres aspirations. J'entendais Stéphane Grappelli, le quartet du Club de France qui a commencé à jouer. Même pendant l'occupation, il y avait encore cet ensemble de jazz, c'est le seul qui existait. Donc, au piano, j'en jouais déjà, quoi. Elle détestait ça. Elle me dit, non, tu vas pas commencer à me jouer de la musique à trois accords. Mais je dis, mademoiselle, c'est pas s'il n'y a pas que trois accords. Je dis, ça ne m'intéresse pas.
Je pense qu'il était conscient de l'emprise qu'avait Nadia Boulanger sur lui et qui était à la fois une emprise positive, parce qu'elle le grandissait, elle révélait peut-être quelque chose qu'il avait en lui et qu'elle allait l'amener très haut, il le savait. Mais qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours eu un esprit de contradiction, un sens du paradoxe et même un sens de la révolte. Presque se dire, je dois exister aussi contre. Et je pense qu'il a trouvé dans le jazz une façon aussi de résister à Nadia Boulanger et de se dire, bah, quelque part, il y a cette voix-là qui existe. C'est vraiment la question existentielle qui sous-tend toute sa carrière. Il n'y aurait pas une façon de mélanger à la fois ce que m'apprend Nadia Boulanger avec ces rythmes-là, ces agencements de timbres, cette autre conception de l'harmonie. Et je pense que tout ça se télescope en lui, se chahute, se bouscule, lutte. Et puis finalement, il deviendra, comme on dira en politique, le candidat de la synthèse.
Je pense souvent à Nadia Boulanger, je pense souvent à la, comme un témoignage, comme un devoir, comme quelque chose, comme une discipline qu'ils exigent, comme s'ils étaient encore autour de moi, en disant « Mais tu vas te mettre à faire ça, nom de Dieu !» Et alors je reprends mes exercices, des gammes, et je, comme ça, par une espèce de bouffée forte. Elle parlait de toute la philosophie de la mort, de comment, quelle attitude prendre, quoi faire, comment être. On apprenait à être.
Tu ressembles à, tu as l'air de, on dirait que tu fus créé sur un clavier des jours anciens, sous les doigts d'un grand musicien. Animé, enflammé, passionné, déchaîné, imprévu et perdu, tu es mon accord majeur, mais tu résonnes dans mon cœur comme une fugue dans la mineur. Ma vie devient sonate ou symphonie lorsque tes yeux se font bleus comme les eaux profondes. Amoureux, amoureux de tout l'amour du monde, tu prends la forme de mes mains et je suis musicien. Les musiciens de ce temps-là ne savaient pas que tu viendrais des siècles après, ni que je t'ai précédé de quelques années. Animé, enflammé, passionné, déchaîné, imprévu et perdu, l'histoire a pleuré cent fois et leur musique a pris la voix de la détresse ou de la joie. Il y eut des milliers d'autres comme nous, avec des yeux toujours bleus, comme les eaux profondes. Amoureux, amoureux de tout l'amour du monde, qui étaient tous des musiciens mais qui n'en savaient rien. Tu ressembles à, tu as l'air de, on dirait que je te vois avec les yeux au bord du cœur. Mon cœur est un grand musicien.
I love Legrand.
Allô, allô, ici Maurice Chevalier qui vous salue. Passez-moi une serviette, voulez-vous, merci.
Une série musicale des médias francophones publics.
Mon œil voilé attrape dans une suprême lueur la longue et fine silhouette de Raymond Legrand. Vas-y, Raymond.
Sur France Inter.
Notre père, il était... C'est compliqué, cette histoire, parce que il avait un copain à Radio Paris qui lui a dit à un moment, Raymond, tu sais, faudrait peut-être que tu quittes... Les Américains vont pas tarder à débarquer, et là, tu risques d'avoir des problèmes, et comme beaucoup d'autres risquent d'avoir des problèmes. Et donc, les mecs, ils ont vu arriver à la star dans leur maquis, ils étaient super contents, et ça lui a épargné des difficultés qu'ont eu d'autres, des gens du cinéma, et des acteurs, et des actrices, etc. S'il reste un certain nombre de partitions de Raymond Legrand et de titres qu'il a arrangés, c'est un peu malgré le sens de l'histoire, peut-être.
Ça y est, Gérard, ça y est.
Allez, quoi, là?
Bah, du débarquement. Ce matin, sur les plages de Normandie.
La bon vent La jolie vent
La voix de Raymond interprétant V'là le bon vent. Une chose est sûre, il l'a senti tourner très peu de temps avant la fin de la guerre. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Il rejoint les rangs des résistants opportunément et tardivement, n'hésitant pas à s'inventer des actes de bravoure. À la libération, il passera entre les mailles du filet, à peine inquiété par le comité d'épuration. Début des années 50, ce père embarrassant fait son retour dans la vie de Michel. Et c'est loin d'être un hasard. Michel, qui est encore au conservatoire, est doué, et ça se sait. Une aubaine pour Raymond. Il a régulièrement besoin d'un coup de main pour honorer dans les temps ses nombreuses commandes. Michel joue le jeu, reste dans l'ombre et planche en urgence sur la musique de deux films, Topaz et Manon des Sources de Marcel Pagnol. C'est son premier contact avec le cinéma. Raymond a trouvé un partenaire pour le sortir d'affaires et Michel, son sésame pour entrer dans un nouvel univers.
Quand j'ai refait sa connaissance à 17-18 ans, c'était un homme drôle, charmant, marrant. Alors on est devenus des camarades.
Et vous aviez pardonné?
Il n'y a même pas à pardonner, parce que chacun fait ce qu'il veut. Et puis ouais, finalement, c'est... oui, simplement, on a crevé la dalle quand même pendant pas mal d'années. Alors c'est dégueulasse, parce que lui, il était vraiment bourré. Il avait toutes les facilités, la gloire, l'argent, machin. Il aurait pu... Mais enfin, il est comme ça. Il est né comme ça, il est inconsistant, il était inconscient, il était... Alors il s'occupait de personne, et même après il s'est remarié après la guerre, bon, et puis il a fait deux enfants, puis il a refait pareil. Il a remonté un orchestre, il est parti avec quelqu'un d'autre, et puis c'est moi qui me suis occupé de mes deux demi-frères, qui étaient deux garçons formidables, bon, mais je me suis occupé de leurs études. Enfin, je veux dire, c'est les cycles comme ça, de gens qui ne veulent pas s'intéresser, ils veulent pas, ils se sentent irresponsables, ils font des enfants comme on fait une sonate, alors c'est pas tout à fait pareil quand même.
Bah, c'était un drôle de bonhomme, c'était un séducteur, c'était un râbleur, il était charmant, séducteur, et puis en même temps, il se foutait de tout, quoi. Donc ça lui permettait de séduire les gens, et puis après, hop, s'en allait. Notre père, alors là, entre Christiane, Michel, moi et Olivier, mon petit frère, on avait la même opinion, tous les quatre, c'était vraiment pas de la détestation, mais pas loin, quoi. Au point que, ça, c'est une anecdote qui peut vraiment faire rire. C'est que mon père, un jour, dit à ma mère, mais tes enfants, ils sont tout maigres et tout, tu devrais leur acheter des gros beefsteaks, alors qu'ils payaient pas la pension alimentaire. Bon. Et alors, je raconte ça à Michel. Et du coup, on l'avait surnommé Gros Beefsteak, notre père. Ouais. C'est son surnom entre nous, quand on parlait de lui. On disait, t'as vu Gros Beefsteak récemment? C'est terrible.
Moi, je ne l'ai pas connu, mon grand-père, parce que comme il n'avait pas de relation, donc il ne venait pas à la maison, la seule fois où il est venu à la maison, j'ai dit bonjour monsieur, parce que je ne savais pas que c'était lui. Et en fait, Raymond, quand il s'est aperçu que son fils avait un potentiel et avait un talent, il a voulu l'utiliser un petit peu pour lui, pour qu'il écrive des trucs, pour l'accompagner, pour lui dépatouiller un peu des choses que lui n'avait pas fait. Voilà, il s'en est un peu servi comme ça. Donc, je crois que... Mon père l'en a un peu voulu aussi d'avoir disparu et puis de revenir un peu pour la bonne cause, pour essayer de... Voilà.
J'étais déjà dans les classes de Nadia Boulanger. Je faisais la composition, je faisais donc
dans le conservatoire, on parlait un peu de moi comme un éventuel compositeur à devenir. Alors il a entendu parler de moi, je ne sais pas par quel téléphone arabe. Et puis il est venu me chercher, puis on a fait connaissance. Là, moi j'avais 17 ans. Et tout à coup, j'ai découvert un homme, bon, c'était pas mon père, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas du tout de sentiment filial à son égard, aucun. Mais comme homme, il était drôle, il était beau, il était sympathique et tout. Et on a été de très très bons amis après. C'était marrant parce qu'il faisait un peu de musique au cinéma à l'époque. Et tout à coup, il me téléphonait à minuit. Michel, oui, viens vite, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, écoute, j'enregistre un film demain matin et je n'ai pas encore commencé la partition. Alors, sur mon pyjama, je mettais un pantalon. J'arrivais chez lui et toute la nuit, on écrivait la partition.
Ah, Topaz, tu as l'air d'un acteur de la Comédie française.
Raymond, faut arriver à une séance sans avoir écrit une note. Et alors, sur les partitions des musiciens, il y avait marqué « à la feuille ». À la feuille dans le métier, ça veut dire qu'il y a un écrit, on écoute le chant comme ça, et puis on joue à l'oreille, à la feuille. Alors je ne sais pas, il se débrouillait sur place comme ça. Alors je dois dire que l'arrangement, il était plutôt nul. Mais lui, il avait un tel culot et un tel, comment dirais-je, pouvoir sur les gens. Il faisait croire à tout le monde que c'était formidable. Et dans la cabine, tous les gens étaient ravis. « Oh, bravo Raymond !» Alors que c'était... c'était loin d'être terrible. Ah oui, il avait un culot extraordinaire.
Même une fois, vous allez rigoler parce que... Il était 7h30, 8h moins le quart. La séance commençait à 9h. Et il me dit « Oh là là, on n'a pas fait le générique, mais il faut faire le générique, c'est capital. » Puis ça dure... Ah, j'arrive, ça dure toujours 2 minutes, 2 minutes et demie, c'est assez long. Alors j'ai dit, mais comment on va faire ? Il m'a dit, je prends les pages de gauche, je prends les pages de droite. Alors on l'a écrit à deux comme ça. Je dis, en quel temps tu finis ? La bémol. Hop, je commençais à la bémol pour qu'il y ait un vague sentiment de continuité. Et en 45 minutes, on a écrit le générique. Et quand on est arrivé au studio, on a enregistré le générique, on venait d'écrire à deux. C'est rigolo, quoi.
Souvent le soir près de la boum, j'entends une voix d'homme qui crie « Oh Manon, je t'aime, je t'aime !»
Raymond Legrand, sans être paresseux, il n'était pas du tout, hein, mais il prenait trop de boulot et il faisait travailler son fils en sous-main. C'est-à-dire qu'il a demandé à Michel d'écrire des partitions pour lui, quoi. D'en superviser, de les revoir, de les retoiletter, etc. Je ne dis pas que Raymond n'écrivait rien, mais simplement, à un moment, il a sollicité vraiment son fils comme un collaborateur principal. Bah, quelque chose malheur est bon, parce que c'est jamais très très bon d'être le second derrière, celui qu'on cache un peu, etc. Mais c'est vrai que ça a certainement permis à Michel, le grand, le fils, de faire, on va dire, ses gammes dans le cinéma, avec des productions qui n'étaient pas effectivement d'un intérêt passionnant, on était bien loin de Demy, Godard et les autres, mais au fond... On sait bien, les musiciens, c'est comme dans tous les métiers, c'est comme les pâtissiers, il faut rater ou faire beaucoup d'éclairs au chocolat pour en faire des très très bons à un moment donné. Bon. Donc je pense que Legrand, ça a correspondu à ce moment-là de sa vie. Et Tuer le père a fait partie aussi du programme. Tuer le père musicalement, c'est ce qu'il a certainement fait très rapidement après cette période-là.
Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort avec Mozart. Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien 30 ou 80 qui s'amusent bien tous les soirs avec tous leurs copains, leurs cousins germains. Ils s'entendent mieux que tous les larrons en foire. Le banjo est un bon gros caduque au boulot, et ça lui donne chaud. Le tuba fait ce qu'il peut, il swingue de son mieux, mais ça l'essouffle un peu. Le violon est si léger que d'un seul coup d'archet, il se met à voler. L'orgue est encore le plus sage, depuis son plus jeune âge, il pense au mariage. Mes amis, pour une belle famille, c'est une belle famille, croyez-moi. Et que Monsieur Gershwin tourne la machine, que Marnet turbine, et ça les contamine. Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Badop badap, going going go going, badop badop. Le trombone et la guitare, la flûte et le piano, le cor et le banjo. Le trombone et la guitare, le sax et la batterie, et toute la compagnie.
Trombone, guitare et compagnie, une farandole d'instruments auxquels Michel donne vie. Et si on y regarde de près, des vies, Michel Legrand est déjà voué à en vivre plusieurs. Ses 20 premières années, il faut les lire comme l'annonce de ce qui va suivre. Tout est déjà semé et n'attend plus qu'à être récolté. Prenez l'expérience du cinéma avec son père Raymond. Michel Legrand y reviendra, il entrera même dans l'histoire pour ses musiques de films. Le jazz, joué par défi devant Nadia Boulanger, eh bien, il dirigera Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans dans un album de légende. Mais revenons en 1952, Michel a 20 ans, il finit le conservatoire mais le classique ne paye pas et il lui faut gagner sa vie. C'est le monde de la variété qui lui ouvre grand les bras.
C'était I Love Legrand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour-Boudadi, orchestrée par Fanny Bohuon. Au violon, Marie-Laurence Chéry. Tous nos remerciements à Thierry Dupin, Romain Couturier, Anne Weinfeld et Stéphane Lerouge.